Bonjour, bonjour à tous, c'est Johan en votre compagnie pour une petite demi-heure pour le mag Kersirwerg. Aujourd'hui, on va passer un bon petit moment avec Patrice Leonovitz qui va nous parler des jardins de Cocagne et jardins des Gorges de l'Aveyron à l'occasion de la présence de ce réseau à la CISCA du mois de décembre. Mais on va aussi faire le point sur, oh là là, est-ce qu'il y a des paniers pour tout le monde ? Mais avant ça, bien sûr, je vous réitère l'appel de l'association Rencontre Partage qui organise un spectacle. L'association Rencontre et Partage organise encore une belle soirée. Ça se passe le samedi 23 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Parisot. Vous êtes venu nous en parler dans les studios. Gina Connolly. Bonjour, vous allez le dire en français et en anglais.
Ah oui, voilà, j'espère, oui. Alors, c'est le sixième ou le septième événement que nous avons géré à Parisot depuis le lancement de notre association il y a un an. Jusqu'à maintenant, on a eu un grand succès. Alors, j'espère que ça va continuer. Et voilà, samedi 23 octobre à 20h30, dans la salle des fêtes, il y aura une soirée musicale. C'est l'homme orchestre, Sébastien Paul Blues. Il va nous chanter, nous jouer beaucoup d'instruments. C'est le country, le blues, le jazz, un peu de tout. Et voilà, j'espère vous voir nombreux.
C'est un homme orchestre, Sébastopol Blues. Entrée 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les enfants. Donc le samedi 23 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Parisot. Et maintenant, vous vous adressez à tous les anglophones.
Hein. This is my first announcement on CFM in English. I hope that lots of you are listening to me out there. We launched an association in Parisot about a year ago to put on cultural events, mostly in the winter evenings. And I just wanted to let you all know that in a couple of weeks' time, on 23rd of October, Saturday week in fact, in the Salle des Fêtes in Parisot, we have a musical evening. A one-man orchestra who is very upbeat, who plays country, jazz, blues, and entertains us very well, or should do, will be with us. It starts at 8:30 in the Salle des Fêtes, and it's €5 for adults and €2 for children. And I hope to see lots of you there.
Alors, comment dit-on homme orchestre en anglais?
One-man band.
Voilà, j'ai appris quelque chose. Il y a aussi le samedi 23 octobre à Caylus, à la salle des fêtes, un bal des châtaignes. C'est organisé par Luz Festair, le comité des fêtes. Et c'est 5 euros l'entrée et les châtaignes sont gratuites. Et c'est animé par du musette traditionnel avec l'orchestre Yannick Luch. C'est toujours le magazine du midi de CFM que vous écoutez. Et ça continue. Et ça continue en donnant enfin la parole à Patrice Leonovitz qui est arrivé à l'heure et qui doit partir très tôt. Donc si vous voulez, je vous passerai une musique à partir de 27, comme ça vous ne perdrez pas le temps. Vous devez filer, vous avez de l'essence, c'est bon ?
J'ai de l'essence, oui.
Il s'en va à Toulouse, mais bon, il y aura des embouteillages, des routiers qui feront des opérations escargot, des choses comme ça.
Bah, j'espère que non, sinon je reviendrai.
Alors, les jardins de Cocagne sont présents au CISCA au mois de décembre. Les jardins de Cocagne, ce sont des choses dont on entend parler comme ça, de temps à autre. Est-ce que vous pensez que tout le public est au courant de ce que c'est ?
Non, bon, c'est un petit peu connu, on en parle de temps en temps, la radio, la preuve, mais aussi sur France Inter ou sur les chaînes de télévision. Mais voilà, bon, c'est un réseau national qui regroupe 105 jardins d'insertion, donc comme celui de Fénérol, qui est un parmi les 105. C'est un réseau national qui regroupe donc ces jardins. Le premier jardin est né à Besançon en 93, si je me souviens bien, donc ça commence à dater.
Alors c'est ça qui est exceptionnel, c'est que on regarde 17 ans après, il y en a 105. Et comment des gens ont cette idée de créer un jardin et de s'affilier au réseau Cocagne ?
Alors ça, il y a soit des gens qui ont l'idée individuellement, c'est-à-dire ils entendent parler des jardins de Cocagne et ils se disent « Oh, c'est super, moi j'ai du terrain, je ferais bien ça ». Donc on a comme ça pas mal de personnes qui nous contactent. Alors bon, quand ils voient l'ampleur de la tâche à accomplir, souvent ils se découragent.
Ou ils trouvent d'autres gens.
Voilà, ou bien ils arrivent à monter une petite équipe et ils sont assez persévérants pour aller jusqu'au bout, parce que c'est quand même très compliqué.
Et donc chaque fois, ce sont des histoires particulières, c'est ça qui est passionnant.
Oui, oui, tout à fait. Ou alors, parfois, ce sont des structures qui œuvrent déjà dans le social et qui se disent, tiens, si on avait un jardin de cocagne, ce serait un complément à ce qu'on fait. C'est ce qui s'est passé ici, puisque c'est l'EREF de Saint-Antonin qui a été à l'origine de la création du jardin.
L'espace rural emploi-formation.
Voilà, oui, excusez-moi pour le sigle.
Non, mais
on va dire site de proximité, ça
voilà.
C'est plus.
Quand on s'en sert souvent, c'est vrai qu'on dit l'EREF.
Voilà, donc effectivement, chaque jardin porte une histoire particulière, liée au territoire, liée aux personnes qui l'ont créé. Parfois, l'initiative vient de quelqu'un qui travaille déjà dans le social. Parfois, elle vient d'un agriculteur qui a envie
Que sa terre continue à donner.
Oui, et que par ailleurs, de donner à l'agriculture un complément social, quoi, d'être sur plusieurs champs à la fois.
Alors, complément social, c'est que les maraîchers qui travaillent là sont pas maraîchers, a priori.
Non. Alors, il y a une équipe d'encadrement, évidemment, de professionnels, dont deux maraîchers professionnels. Enfin, là, je parle pour le Jardin des Gorges de l'Aveyron. Mais sinon, tous les autres, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les aides-maraîchers, sont des gens qui viennent travailler entre 6 mois et 2 ans maximum, avec pour but de reconstruire un parcours professionnel. Ce sont des gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est-à-dire soit bénéficiaires du RSA, soit inscrits à Pôle emploi depuis plus de 2 ans. Donc des personnes qui ont du mal à retrouver un emploi parce que soit ils manquent de qualifications, soit ils ont des problèmes des freins à l'emploi à lever, disons, des problèmes sociaux, des problèmes de santé. Voilà, donc notre rôle à nous, c'est de les aider à surmonter ces difficultés et ensuite à reconstruire un parcours professionnel, à trouver éventuellement les formations qui vont avec, à trouver les financements de ces formations. Et donc le but, c'est que soit les gens trouvent du travail pendant qu'ils sont encore chez nous, soit qu'ils sortent du jardin avec beaucoup plus de chances d'en trouver qu'ils en avaient en entrant.
Alors il y a plusieurs dimensions à cette activité pour ces personnes en insertion, comme on dit, ceux qui sont éloignés du marché du travail, ce que vous disiez. C'est que d'abord, ils se lèvent pour aller quelque part à heure fixe, etc. Donc ils se re-rythment par rapport à une activité sociale.
Oui.
Le deuxième truc, c'est qu'ils sont socialisés, c'est-à-dire plutôt que d'être paumés chez eux dans leur coin, à l'impression d'être seuls face au monde, ils se retrouvent au sein d'une équipe. Y compris de gens qui ont peut-être des parcours similaires aux leurs. Voilà, ils font quelque chose ensemble. Bon, la dimension que vous donnez, c'est que vous les aidez individuellement par rapport à leur situation, trouver des pistes, des formations, d'autres stages, leur apprendre peut-être à reformuler les points forts qu'ils ont, parce que ça serait invraisemblable qu'il y ait des individus qui n'existent pas, quoi. On n'a pas un emploi, mais on a forcément un savoir-faire, une compétence, etc. C'est ça qu'il faut valoriser, parce que souvent, c'est l'image de soi qui est atteinte quand on se sent inutile. Et puis, la dimension intéressante, c'est que peut-être ils ne s'étaient jamais posé la question d'où vient ce que je mange. Alors là, bon, les jardins de cocagne font de l'agriculture biologique.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la deuxième dimension d'un jardin de cocagne. C'est le côté environnemental. C'est-à-dire qu'on fait du maraîchage bio et tous les jardins sont exclusivement en bio. Ça fait partie de la charte lorsqu'on adhère au réseau cocagne. Donc, bien évidemment, les personnes qui viennent travailler découvrent souvent le maraîchage déjà, à part ceux qui avaient un petit jardin, mais c'est pas du tout de la même dimension. Ils découvrent le maraîchage et ils découvrent le bio. Et on a un rôle, disons, d'éducation aussi à l'environnement, dans la mesure où on va leur expliquer pourquoi on fait du bio. Et où on va dépasser aussi le premier stade, disons. Bon, il y a beaucoup de gens qui mangent bio avec un but très personnel qui est d'être en bonne santé, mais on y met vraiment une dimension supplémentaire qui est la protection de l'environnement, parce que cultiver bio, c'est évidemment préserver la terre de toute la chimie qu'on peut mettre dans un système, disons, traditionnel.
On va continuer à parler de ça après. Mokaye, je sais pas comment ça se prononce, comme elle est belle.
eux-mêmes narcissiques, vautrés à charisme et faux airs, d'hooligans cravatés. Serpent à langue fine, ça grouille à l'assemblée, la bouche truffée d'épines. Ça grouille à l'assemblée, serment, décret, prière. Ça chute à l'assemblée pour dorer sa carrière.
De la pop et du rock en Tarn et Garonne. La vie des pays, CFM.
Et on est avec Patrice Leonovic, directeur des Jardins des Gorges de l'Aveyron dans le MAG de CFM. On disait à l'instant que les Jardins de Cocagne, dont vous êtes adhérent, en fait, est un réseau, qu'ils font du maraîchage bio, que ce sont des entreprises d'insertion pour permettre aux gens de rebondir, de se retrouver, de se re-rythmer. Bon, en même temps, les jardins de Cocagne, ça répond à un besoin du marché. C'est-à-dire, c'est de l'économie solidaire, certes. Les clients, entre guillemets, font confiance, c'est-à-dire qu'ils adhèrent et en contrepartie, ils ont un produit. En même temps, c'est forcément un produit de saison. Il n'est pas question de leur faire venir des choses hors saison et puis des choses de très loin. C'est des choses produites localement.
Oui, tout à fait. Oui, oui,
donc,
oui.
En fait, la démarche des clients, c'est une démarche d'adhésion à ce processus.
Oui, adhésion déjà avec un A majuscule au projet de l'association qui est avant tout social. Donc les gens qui adhèrent chez nous, ils ont la satisfaction de participer à une action sociale et, cerise sur le gâteau, ils ont leur panier bio chaque semaine dans un lieu de dépôt. On a une trentaine de lieux de dépôt en Midi-Pyrénées Nord. Et les gens choisissent un lieu de dépôt et chaque semaine, ils vont chercher leur panier à cet endroit. Et donc ces adhérents, évidemment, c'est le complément évident pour nous parce que c'est aussi, on a oublié peut-être ça tout à l'heure dans la dimension insertion, c'est que on fonctionne le plus possible comme une entreprise classique, c'est-à-dire que les gens qui travaillent chez nous savent que leur travail est attendu par des adhérents qui sont aussi des clients, évidemment, que les légumes que l'on produit sont attendus, que les gens attendent des beaux paniers, des beaux légumes. On est très loin de l'occupationnel, hein, c'est vraiment une vraie structure. Et en plus, effectivement, on amène une dimension supplémentaire au bio, parce que le bio en soi, c'est une certification qui donne une garantie aux consommateurs que les produits ont été n'ont pas été traités chimiquement et ont suivi un processus qui respecte la nature. Mais si le bio est importé et fait 1000 km en camion, avec éventuellement des zones où le traitement de l'eau est à peu près n'importe quoi, où le traitement des salariés est à peu près n'importe quoi aussi. Certes on mange bio, mais on n'est plus du tout dans le développement durable. Nous, on essaie vraiment de mettre une dimension environnementale, une dimension sociale et une dimension économique, effectivement, par un système de circuits courts où nos paniers vont au plus loin à Toulouse.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on entend souvent ce discours sur la souveraineté alimentaire, qui est à l'échelle planétaire une démarche juste, puisqu'on a assisté au contraire, hein, on a assisté à la spécialisation de régions dans une monoculture et des populations qui peuvent ne pas se nourrir alors que leur pays exporte. Oui. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, quand elle s'applique concrètement au niveau local, c'est le circuit court, c'est la distribution de proximité. Tout n'est pas possible, bien entendu. On ne va pas se passer de jus d'orange,
ni de café, ni de
cacao, ni de choses comme ça. C'est pas la question. En revanche, sur les légumes possibles dans son coin, c'est invraisemblable de voir mourir des paysans travailleurs qui ont une production qui pourrait s'écouler, alors que dans les réseaux de distribution de supermarchés, on voit arriver des légumes très jolis. Hein, l'exemple le plus frappant ces dernières années, c'était les belles tomates. Ah ça, elles sont belles, elles n'ont pas de goût. Chez vous, on peut produire des tomates qui sont moins jolies, mais qui sont goûteuses.
Voilà, qui ont du goût et qui ne sont pas, qui n'ont pas subi de traitement chimique. Oui, la logique du circuit court, elle permet aux consommateurs de faire un choix. C'est-à-dire que les gens qui adhèrent chez nous ont fait ce choix de proximité, ont fait le choix du social, de l'environnemental, en connaissance de cause et évidemment en payant éventuellement un petit peu plus cher. Encore que parfois on est surpris quand on compare les prix, notamment rayons fruits et légumes des supermarchés et des autres circuits. Hein. C'est pas si évident que ça la différence de prix. Mais nous on est vraiment dans cette logique, on produit propre avec des conditions sociales correctes et des conditions économiques correctes. Un supermarché, il n'est pas dans cette logique, il est dans la logique d'acheter le moins cher possible, même si ça vient du bout du monde. S'il y a 3 centimes d'écart, on achètera au bout du monde. C'est là où c'est important de promouvoir les circuits courts et que bon, chaque consommateur fasse aussi son choix personnel.
Alors en revanche, il y a la surprise. C'est-à-dire on est adhérent, on cotise et on va chercher son panier dans son lieu de dépôt. Et on découvre à ce moment-là ce qu'il y a. Alors bon, on n'est pas étonné parce que a priori c'est forcément des fruits et des légumes de saison. En même temps, quand on est surpris parce que, par exemple, il y a des pommes dehors qu'on n'a pas l'habitude d'acheter comme ça, etc. Il y a des astuces, c'est-à-dire que il y a des gens dans les jardins de Cocagne qui font une lettre pour expliquer comment vit l'entreprise, comment vit l'équipe, quel rapport il y a, par exemple, je me souviens, moi, avec le gel, comment c'est difficile d'arracher les poireaux, que les poireaux ne gèlent pas. Et puis, il y a des recettes. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont appris à cuisiner des choses dont ils n'ont pas l'habitude ou que spontanément, ils n'iraient pas acheter.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, on ne choisit pas ce qu'il va y avoir dans le panier. On compose, nous, le panier en fonction des légumes qui poussent à ce moment-là. On essaie d'avoir des variétés.
Que vous avez semé, quand même.
Oui, 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 bien sûr. On est prévoyant. On a conçu nos paniers longtemps à l'avance. Le plan de culture est conçu en fonction de ce qu'on veut mettre dans les paniers plusieurs mois après. Donc on essaie d'avoir une variété importante, hein, entre 4 et 5 sortes de légumes par semaine. On ne répète pas la même composition de panier d'une semaine à l'autre. Mais effectivement, les gens ne choisissent pas. Et en fait, ce qui pourrait paraître comme un inconvénient est souvent perçu plutôt positivement parce que les gens disent, moi, quand je fais mes courses, j'achète toujours la même chose. Et en fait, grâce à vous, je découvre des légumes que je n'ai pas idée d'acheter ou que je ne saurais pas préparer. Et du coup, effectivement, on les aide avec cette lettre hebdomadaire où, lorsqu'on propose un légume qui est un petit peu hors du commun, disons, on joint toujours une recette. Dans la lettre aux adhérents, on explique un petit peu les origines de ce légume. Parfois, ce sont des choses qui ont disparu depuis très peu de temps, en réalité. Je pense notamment au topinambour, par exemple, des légumes comme ça qu'on consommait encore très récemment. Et que les gens ont un peu oublié.
Oui, parce que c'est associé aussi au rutabaga et oui. Donc à l'absence de pommes de terre
voilà,
pendant la guerre.
Période de restriction.
Voilà. C'est associé à ça, en fait.
Oui, oui, tout à fait.
Alors que c'est très bon.
C'est très bon, à condition, effectivement, d'avoir quelques recettes. Alors, dans ce cas-là, on joint des recettes pour que les gens sachent quoi en faire, bien sûr. Parce que parfois, c'est la découverte totale. Mais bon, c'est une demande aussi de la part des adhérents. Il ne faut pas en abuser non plus. Ils ont envie d'avoir des paniers classiques avec de temps en temps une petite fantaisie, un légume qu'ils ne connaissent pas.
Alors les Jardins des Gorges d'Aveyron, membre du réseau Cocagne, est installé à Fénérol, oui. Dans une plaine assez fertile puisque c'est tout au bord de la rivière Aveyron.
Oui.
Vous êtes à l'étroit, vous aimeriez vous étendre ?
Oui, on est à l'étroit, c'est sûr qu'on est à l'étroit, on a 2,5 hectares. Depuis plusieurs années, on est à fond sur la production, mais toujours avec une liste d'attente d'adhérents importants. Si on avait la possibilité de produire 2 fois plus de paniers, on les vendrait sans problème. Bon, maintenant, c'est très difficile de trouver des terrains. On est toujours à la recherche, évidemment. Pour l'instant, on se contente de nos 2,5 hectares. Si on avait plus, on pourrait à la fois produire plus, avoir des meilleures rotations pour le bio, puisqu'il faut laisser les terres en repos. Et puis aussi, ça nous permettrait d'avoir quelques postes supplémentaires donc pour des personnes en insertion. Voilà.
Depuis le temps que vous avez démarré, il y a quand même eu des étapes. Je me souviens d'inauguration, de construction en dur, puis de petites cabines pour pouvoir faire la compta, pas être gelé.
Oui. Au début, le site n'avait...
C'était des serres.
Il y avait des serres et des terres en plein champ.
Une caravane.
Et une caravane au début. Et puis, petit à petit, on a mis effectivement déjà ce qu'il fallait pour accueillir les salariés d'une façon confortable. Toilettes, douches, vestiaires et salles de repas, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir préparer à manger ou réchauffer une gamelle le midi. Et puis on a mis des bureaux, bien sûr. Il y a un bureau pour l'accompagnatrice socio-professionnelle, un bureau pour la partie administrative, un bureau pour les encadrants. Voilà, maintenant on est arrivé à un confort très correct, mais toujours à l'étroit.
Toujours à l'étroit. Bon. Les cultures projetées, il y a du nouveau chaque année. Il y a des tentatives de planter autre chose, de faire des essais.
À l'intérieur de chaque variété, par exemple, on essaie des nouvelles sortes de tomates. Après, sur les légumes eux-mêmes, je crois qu'on a un peu tout essayé et que on peut plus inventer grand-chose de nouveau. Mais à l'intérieur de chaque variété, on va encore trouver on essaie de retrouver des anciennes variétés de tomates, des anciennes variétés de pommes de terre, des choses comme ça.
Alors moi, j'ai eu un écho d'une visite d'un groupe du CDST, de la MSA, là, le Contrat Développement Social du Territoire, qui font des ateliers autour de la cuisine. Et qui sont venus voir les jardins. Alors, ils ont vu des jardins d'agrément, ils sont venus voir les jardins des Gorges Aveyron. Et l'étonnement de personnes âgées qui venaient pour la première fois, c'est que, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce jardin ? Ils n'enlèvent pas les mauvaises herbes. À quoi a répondu une maraîchère ? Mais ces mauvaises herbes, madame, c'est du millepertuis, c'est très bon.
Oui, déjà, il y a des parcelles qui sont en repos, hein, c'est du bio, donc ces parcelles, évidemment, elles restent en herbe. Et puis ensuite, il n'y a pas nécessité à ce que le terrain soit totalement dénué de mauvaises herbes. Il y a des endroits où, d'une part, ça ne gêne pas, donc il n'y a pas de raison de faire travailler des gens sur des choses qui ne servent à rien. Désherber une allée, par exemple, c'est purement esthétique, enfin, pour certains. Et puis effectivement, ensuite, dans la technique du bio, qui est toujours en recherche, il y a aussi des interactions entre des plantes qu'on dit mauvaises herbes qui en fait ont leur propre apport sur la terre, donc qui ne sont pas néfastes.
Merci, on recevait Patrice Zounovitch, directeur des Jardins des Gorges de l'Aveyron, membre du réseau Cocagne. Ils seront présents à la CISCA au mois de décembre à Toulouse. Demain, je recevrai l'association Terre Magie, comme la lanterne magique, Terre Magique, qui a ouvert une épicerie bio à Saint-Antonin, donc on restera dans le sujet. Merci. Bon après-midi.
Merci à vous.
Bon après-midi à l'écoute du programme CFM. Tout de suite, le journal.